Genèveactive.ch.
Olivier Chiacari, on se retrouve déjà après les sirènes des Caraïbes. C'est une production cette année 2013 particulièrement riche, ou est-ce que c'est votre train habituel ?
Non, pas du tout, c'est totalement fortuit. En fait, avant ça, je crois que j'ai eu 3-4 ans de silence. Donc voilà, là il se trouve que coup sur coup, j'ai eu le temps des sirènes était une commande, et là les lois du marché sont une commande mais libre. Et voilà, bon, c'est une chance, j'en profite.
Vous parlez d'une commande libre, mais il y a plusieurs contraintes. D'abord, le choix de Guy Jutard à un opéra bouffe. Et ensuite, le sujet, est-ce que c'est Guy Jutard qui pensait justement à la situation contemporaine, économique et votre vision ? Comment s'est effectué ce choix ?
Alors déjà, avec Guy, c'est un compagnonnage. Ça fait, c'est le troisième spectacle qu'on fait ensemble. Donc ça fait des années qu'on se connaît. On se connaît très très bien. Il y a une vraie liberté entre lui et moi. Une confiance aussi. Donc il m'a demandé deux choses. Il m'a dit d'abord, je veux que ce soit un opéra bouffe. Un genre que je ne connaissais pas du tout. Et ensuite, il m'a dit, j'aimerais bien que ce soit politique. Alors, c'est assez drôle, puisque j'ai une pièce en chantier très personnelle qui s'appelle Politicus, à deux personnages, qui est une pièce politique. Et je baignais là-dedans, je m'étais mis à relire. Ça fait plusieurs mois que je relis Rousseau, Montesquieu, Platon, que je me réinterroge sur les bases même, les fondements de notre démocratie, et du pourquoi on vit ensemble et pourquoi on vit dans un système comme celui-là et pas dans un autre. Et voilà, et je me suis dit, tiens, je vais pouvoir aborder ce sujet de façon beaucoup plus ludique et cocasse avec cette histoire d'opéra bouffe. Donc, mais la première chose pour moi, c'était de me renseigner, de parfaire ma culture générale en lisant évidemment du Offenbach, mais aussi Chabrier, L'Étoile, qui est superbe. Et voilà, et en fait j'ai vu qu'il a été très très bien inspiré parce que ça me correspond bien, le rapport chanson-parlé, et voilà, ça a été un énorme travail parce que tous les passages chantés m'étaient moins familiers, mais je suis très très heureux à l'arrivée vraiment du résultat.
Il y a une contrainte supplémentaire qui est celle d'écrire pour un théâtre de marionnettes.
Alors oui et non, c'est toute la question, et c'est ce préjugé sur les marionnettes. Je dirais que j'écris pratiquement comme si c'était pour des comédiens entre guillemets ordinaires ou traditionnels. D'ailleurs, je désespère pas, c'est une pièce qui pourrait tout à fait être jouée par une compagnie, enfin il y a beaucoup de personnages. Mais pour moi, il n'y a rien dans l'écriture qui est totalement spécifique à la marionnette.
Est-ce que la marionnette vous permet peut-être d'aller un peu plus loin dans le trait caricatural ?
Oui et non, c'est marrant puisque Guy m'a approché en son temps en disant « ton écriture est très marionnettique ». Donc déjà au départ, par le simple fait déjà de sa brièveté, c'est vrai que voilà, il m'a enseigné des choses comme on ne peut pas faire de longues tirades, mais je ne faisais pas de longues tirades avant et j'en fais pas quand j'écris pour des compagnies traditionnelles. Parce que voilà, comme on n'a pas toute la richesse de l'expression du visage du comédien, on ne peut pas s'aventurer dans un monologue. Donc je dirais que mon écriture se calque bien sur le genre marionnettique, et j'y change pas grand chose en fait quand j'écris pour ça. Une des spécificités sur cette pièce là, c'est que les comédiens jouent plusieurs rôles, et ça c'est très intéressant parce que tout bêtement déjà je peux partir sur 10-15 personnages sans qu'à la production ça pose de gros problèmes. Les 6 comédiens jouent tous les rôles, il y a une interchangeabilité entre eux. Hormis ça, j'écris comme j'écris d'habitude.
Pendant Guy Jutard, dans la préface des lois du marché, pose la question, est-ce qu'il y a véritablement une écriture spécifique pour ce théâtre ? Donc la question existe quand même.
Mais je dirais que j'ai la chance que la mienne au départ soit très proche. Et je pense que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Guy. Si j'écrivais des monologues au passé simple de 3 heures sans entracte, je pense qu'on ne serait jamais devenu, on serait jamais devenu amis, on n'aurait pas compagnonné comme ça des années durant. Ensuite... c'est vrai que sur ce spectacle, il y a cette spécificité, par exemple, ce sont que des têtes et des mains. Les marionnettes n'ont pas de corps. En fait, c'est les mains des comédiens qui font office de corps. C'est très, très intéressant. On avait déjà tenté cette forme-là. Il l'avait créée pour La Cour des Petits, une pièce précédente que j'avais écrite. D'ailleurs, une pièce écrite pour d'ailleurs, une compagnie traditionnelle. J'avais adapté pour les marionnettes, mais je n'avais pas changé énormément. Donc peut-être, voilà, c'est vrai que quand je pensais à ces personnages, je ne pensais pas tellement leur corps. Je pensais leur visage, je les entends. Donc personne ne se rattache jamais les lacets. Mais en même temps, l'astuce qui a été trouvée avec ses mains permet tout. On peut soulever un gant de satin et puis ça donne quelque chose de très très érotique.
Dans les lois du marché, nous sommes dans une petite ville qui connaît évidemment les problèmes actuels. Par un moment, cette ville va très bien. Ensuite, la question du chômage se pose. Mais il semble que tous les personnages, aussi bien le maire que l'investisseur, que l'employé, tout le monde n'a que le profit comme religion.
Alors, c'était mon credo, c'est-à-dire, j'ai toujours, si j'écris ce type de pièce pour raconter ce qui se dit dans les bistrots, ça sert à rien. Le plateau, faut le mériter. Les personnages doivent mériter le plateau, la fable doit mériter d'être raconté au spectateur. Donc voilà, sur le postulat d'une petite entreprise qui prospère, une usine de jouets en bois, qui périclite en fait après avoir prospéré, qui ferme, son PDG se suicide, et c'est une catastrophe pour la petite bourgade de Appichstadt où elle était implantée. Donc sur ce postulat-là, je suis je voulais approcher cette situation en me disant qui est responsable, qui peut faire en sorte que ça aille mieux, qui a fait en sorte que ça aille mal. Et je me suis aperçu que tout le monde était responsable. Les politiciens, évidemment, les entrepreneurs, évidemment, mais aussi les employés, les travailleurs, de ne pas s'être syndiqués, de ne pas se battre suffisamment, d'avoir accepté toutes les règles, je dirais. Travailler plus, gagner moins. Et donc, ça, c'est mon postulat de départ. C'est-à-dire, soit nous sommes tous coupables, soit personne ne l'est.
Chacun cherche à être déresponsabilisé ou à faire porter le chapeau, disons, à quelqu'un d'autre. Donc, que le maire prétende que la santé de la ville dépende de l'entrepreneur, l'entrepreneur des avantages qu'il obtient. Finalement, même l'employé, lui, repose sur le politique en te disant, bon, si la société fait faillite, le maire nous soutiendra.
Évidemment, on reçoit tout ça de façon médiatique. D'ailleurs, il y a les médias dans la pièce qui sont un peu périphériques, mais je les traite aussi. Voilà, moi, dans cette représentation médiatique qui nous est donnée de voir tous les soirs, ne serait-ce que par le biais d'un TJ, c'est la grande foire à la complainte et à l'accusation. C'est-à-dire que personne n'assume ses responsabilités. Donc, les travailleurs accusent leur patron, ce qui est légitime, les patrons accusent les politiciens, ce qui est légitime, et les politiciens accusent la conjoncture, ce qui encore une fois est légitime. Donc au-delà de tout ça, je me suis dit, je vais m'en amuser, et finalement, je m'apercevais, quelque chose d'intéressant, c'est qu'en écrivant cette pièce, je n'arrivais pas à dégager un protagoniste. Je me dis, est-ce que c'est les travailleurs, c'est trois duos, je dirais, enfin un trio, mais on a vraiment les trois pôles, travailleurs, entrepreneurs, politiciens, qui interagissent vraiment très fort entre eux, avec les médias qui relatent de façon assez spécifique. Et je n'arrivais pas à dégager un ou des protagonistes. Et finalement, je me suis dit, le protagoniste, c'est sans doute le système lui-même. C'est-à-dire, le système est fait de sorte que, en fait, il s'auto-alimente et c'est presque comme si on était devenu ces objets, ces marionnettes ou son produit. Nous sommes le produit du système désormais.
L'employé, par exemple, collectionne les symboles de réussite, mais sur le plan social, il se retrouve exactement comme l'entrepreneur au moment où il va licencier sa femme de ménage.
Exactement, c'est un peu le jeu de domino des poupées russes. C'est-à-dire, on est toujours l'employeur d'un autre, on a toujours quelqu'un à briser ou à molester. Et c'est ça qui m'intéressait aussi, c'est que cette femme de ménage, pour moi, incarne tous les laissés pour compte et tous ceux qui n'ont pas droit de citer. La pièce montre surtout ceux qui ont droit de citer, ceux qui ont encore, je dirais, entre guillemets, le privilège ou la possibilité de se plaindre, de se défendre. Et il y a cette femme de ménage qui est muette, silencieuse, parce que je me suis dit, voilà, je pense que dans ce marasme, il y a plein de gens qu'on oublie, qui n'ont pas droit de citer, et la femme de ménage incarne ces personnages qui seraient peut-être le dernier restant d'humanité dans cette affaire.
Je m'attendais à ce que le maire puisse être un petit peu corrompu ou ait une envie de s'enrichir, mais en réalité, dans les lois du marché, il veut sa statue au centre de la ville, un pur exemple de narcissisme.
Alors exactement, ça aussi c'est très important, mon postulat de départ, c'est qu'aucun d'eux n'est cynique. Aucun d'eux n'est cynique, c'est fondamental. C'est vrai que tout le temps au bistrot, dans la conversation, on est là, on se dit qui sont les méchants dans cette histoire. Moi je suis de nouveau tous coupables ou aucun. Et donc à partir de ce postulat, ils essayent tous de faire de leur mieux, en étant évidemment ambitieux, égocentriques, égoïstes, très peu à l'écoute de l'autre, mais ils ne sont jamais cyniques, ni les entrepreneurs d'ailleurs, c'est pareil. Ils essayent de faire bien tous, et de nouveau ce système est fait de sorte que de toute façon, il y a une sorte d'escalade, plus, toujours plus vite. Toujours plus d'argent, toujours plus de luxe. J'ai entendu l'autre jour, maintenant on parle d'hyperluxe. C'est ce qui marche le mieux. C'est d'une obscénité crasse. Ça, moi, j'ai même pas envie d'y mettre des personnes derrière. C'est le principe même que je réfute, qui me choque. Peu importe que ce soit des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes derrière tout ça. C'est le principe. Maintenant, l'hyperluxe marche à fond. Et c'est vrai que la pièce parle aussi de ça. C'est-à-dire, on passe, je ne sais pas ce qu'il faudra dévoiler, mais on passe du bois à l'or et au diamant. Et en fait, c'est chaque fois des solutions de fortune, mais on monte d'un cran dans l'escalade de la folie. Et en fait, on s'en satisfait parce qu'on sauve notre peau pour les années à venir. Et puis après, on verra. Le politicien, il le dit à un moment donné, mon coach avait raison, j'aurais dû faire du cinéma.
Dont il aurait été le principal acteur.
Mais forcément. Mais peut-être que c'est plus sa place. Mais c'est des répliques qui me sont inspirées par le fait qu'ils sont tellement contents de passer à la télévision, ces politiciens, quand je les vois, que c'est vrai, je me dis, c'est Ronald Reagan, quoi. Il faisait du cinéma et finalement, ça nous a rattrapés. On ne pensait pas que ce serait possible en Europe et je me dis, ce ne serait pas impossible que dans quelques années, on ait un Schwarzenegger ou quelqu'un comme ça d'européen, une star du cinéma qui devienne politicienne.
Ce n'est pas que l'image à la télévision se soit un petit peu dépréciée avec cette utilisation multiple justement depuis longtemps. Vous parlez des années Reagan déjà par exemple.
Non, je pense qu'elle a encore de beaux jours devant elle. Quand on voit alors ça, c'est mon personnage médiatique, Lady N News, qui relate. Alors là, j'ai réfléchi longuement, parce qu'évidemment, on a les guignols dans l'info. Il y a tellement de choses qui existent, qui alpaguent et qui épinglent les médias. Et je me disais, voilà, moi, Olivier Cacchiari, comment j'aborde ça? Comment je les vois? Et je regardais MTJ le soir à la sacro-sainte messe. Et puis finalement, je me suis dit... Au-delà, eux aussi, je crois que leur problème, c'est pas de déformer la réalité, c'est pas d'être corrompu, c'est pas, je pense qu'ils, pour la plupart, ils font bien leur métier. Plus je les regarde, plus je me dis, c'est le manque de temps. C'est-à-dire que ça va de plus en plus vite. Même une interview, on traite de sujets d'une complexité considérable et on a trois réponses de quelques secondes à apporter. Donc à tel point que je m'ai amusé, je me suis dit, voilà, bah, je vais démesurer ça et en fait, il n'y a pas de réponse. Elle ne fait que poser des questions et les personnages n'ont pas le temps de répondre, les gens qui sont invités. Et la deuxième chose aussi par rapport aux médias, je me disais, c'est la nouvelle justice. Il me semble qu'il y a un retour comme ça un peu à la vindicte populaire ces dernières années. Il y a besoin de lyncher les pédophiles, les prêtres et les riches et les pauvres et les Roumains et les Roms. Et quand je vois des DSK ou des gens comme ça qui passent à la télé, j'ai l'impression qu'ils passent devant un tribunal public et qui viennent faire leur mea culpa. Et ça aussi, c'est un des angles qui m'intéressait, c'est que les médias se substituent désormais à la justice, il me semble. C'est une sorte de justice populaire, comme ça. Mais exactement, c'est la même chose que pour les autres. Pour moi, il était exclu d'en faire quelqu'un de véreux ou quelqu'un de malhonnête. C'était exclu.
Ce côté politique est un sujet que vous travaillez avec un grand intérêt. Je pense à la Cour des petits, vous avez touché un petit peu à la morale politique, au vilain petit mouton qui était surtout sur la xénophobie, les sirènes des Caraïbes qui étaient sur le mirage de l'exil.
Ne le sachant même pas au début, des gens comme François Truand ou Claude Stratz m'ont fait prendre conscience du côté politique de mon travail. Est-ce que c'est dû à ma naissance, à mon parcours, au fait d'être fils d'immigrés, l'inscription dans une société? Mais c'est vrai que c'est soit politique ou social. Moi, ça m'intéresse. J'ai souvent aussi décrié le théâtre qui se regarde le nombril, qui raconte encore et encore la même histoire avec ses classiques, pour qui il faut préserver une place, évidemment, mais parfois ils prennent trop de place par rapport aux contemporains. Et moi, j'ai vraiment plaisir à ramener un théâtre, je dirais, populaire, au cœur de la cité. Avec Guy, on s'entend très très bien là-dessus, parce qu'il a cette même envie. C'est-à-dire, le théâtre doit être en prise directe, et en même temps, on n'est pas dans le réel, on est dans le vraisemblable, mais jamais dans le vrai. Dans cette fable, je me suis inspiré de plein de choses. Il y a du Merck Serono, mais il y a aussi les subprimes. Tout ce que je vois tous les soirs à télé, je suis très inspiré aussi par évidemment ce qui se passe en France, enfin, ce basculement Sarkozy-Hollande, ce qui s'est passé, cette déroute de la gauche, quoi, qui n'arrive pas à reprendre les rênes. Et en même temps, de nouveau, ce jeu perpétuel où on veut la droite assure pas, donc on punit, on met la gauche assure pas, donc on punit. Et cette sorte d'alternance perpétuelle qui est complètement stérile et vaine, quoi. Je pense que faire la radiographie d'une problématique, c'est déjà faire avancer les choses, il me semble. Et surtout, donner une lecture que j'espère nouvelle, originale, par le fait justement... que le postulat de cette pièce, c'est soit on est tous coupables, soit personne ne l'est.
Genève Active.ch